La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, que diriez-vous d'aller faire un petit tour en Argentine, où la langue espagnole est encore à l'honneur, car une femme intéressante m'interpelle, croise mon chemin de curieuse. Aussi, je me ferai un plaisir de vous la présenter. Alors, elle est également écrivaine et fut de plus éditrice, traductrice et également mécène. Je citerai Ramona Victoria Epifania Rufina Ocampo Aguirre, mais oui, tout cela. Ou pour raccourcir, comme elle se présente, nous dirons qu'elle se nomme Victoria Ocampo. Alors, il est vrai qu'elle est née à la toute fin du 19e siècle, en 1890, mais qu'elle a participé activement aux différents mouvements novateurs qui sont nés au début du 20e siècle et qu'on lui doit la création d'un mouvement féministe argentin, la Unión Argentina de Mujeres, l'Union des femmes argentines. Alors, nous revenons donc dans l'ambiance de contestation survoltée des femmes de ces époques pour conquérir leur autonomie égalitaire au sein des sociétés, ce qui ne nous change pas beaucoup de nos Espagnols à peine quittés malgré les peines et les épreuves. Et elle écrira d'ailleurs un essai féministe intitulé « La femme et son expression » qui sera publié en 1936. Elle a à cette époque 46 ans. Et c'est à ce moment qu'elle fondera l'Union Argentine des Femmes avec une écrivaine communiste nommée Maria Rosa Oliver, ce qui fait aussi que par ce biais, elle s'opposera à une réforme et prendra la parole à la radio au nom des femmes qui finalement obtiendront gain de cause contre cette réforme qui imposait la décision de retirer des droits obtenus en 1926 aux femmes mariées de disposer d'elles-mêmes et de leurs biens. Alors, bien qu'elle soit née privilégiée, elle possède, notons-le, une conscience sociale. Alors, c'est quelqu'un qui s'investira aussi pendant les guerres, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Espagne, pour accueillir des réfugiés politiques ou militer contre les exactions diverses. La politique de son pays la mobilise également, car elle est plutôt anti-Pérone. En 1953, elle sera même incarcérée. Sa maison perquisitionnée, ce qui suscitera un tollé général à l'international, de la part notamment des intellectuels liés au Comité international pour la libération des intellectuels argentins, fondé entre autres par l'écrivain britannique Aldous Huxley, et même le ministre indien Nehru et la diplomate écrivaine chilienne Gabriela Mistral se feront entendre auprès de Perón pour activer la libération de Victoria Ocampo, qui interviendra presque un mois après son incarcération. Alors, qui est donc Victoria Ocampo? Eh bien, c'est une aristocrate qui, de par sa naissance, disposa de moyens pour lui permettre d'évoluer facilement dans le monde et dans la vie. Elle bénéficie déjà dès l'origine, comme sa sœur, écrivaine également et poétesse, nommée Silvina Ocampo, d'une solide éducation où les langues vivantes sont enseignées, d'autant plus qu'elle traverse avec ses parents l'Europe et donc la France. Bon, Paris évidemment, mais aussi l'Angleterre, l'Italie ou la Suisse. Et donc, elle apprendra en plus de l'espagnol, l'anglais et aussi le français. Et une partie de son éducation s'effectuera d'ailleurs en français. Alors, elle étudiera bien évidemment la littérature, mais pas que cela. Ce sera aussi les mathématiques, entre autres. Et elle étendra d'ailleurs son champ d'intérêt littéraire avec des auteurs européens du 19e siècle notamment. Alors c'est par exemple les Français Victor Hugo ou Guy de Maupassant, les Anglais Charles Dickens ou Arthur Conan Doyle, l'Américain Edgar Allan Poe, l'Irlandais Oscar Wilde et d'autres encore. Et par la suite, à l'âge de 18 ans, elle poursuivra des études au Collège de France à Paris, qui se dispense un enseignement complet en lettres, sciences et arts. Et ensuite, elle ira à la Sorbonne pour étudier la philosophie, la littérature classique occidentale et orientale. Bon, autant dire qu'elle étudiera dans des lieux importants et renommés. Bref, vous pouvez constater que cette personne bénéficie d'une solide éducation qui lui permettra d'affronter la vie et sans doute aussi de s'épanouir dans ses activités, d'autant plus qu'elle est soutenue par un contexte privilégié. Alors ce sera une riche héritière, mais elle s'attachera surtout à mettre ses biens au service de l'art et des artistes, et elle saura le faire, même incognito, s'il le faut, dans le but de soutenir, d'aider d'autres talents à émerger et à s'exprimer. Alors après ses études, elle se lancera dans la publication de ses propres écrits. Ce sera d'abord un premier article à l'âge de 30 ans sur Dante, le poète écrivain florentin du XIIIe siècle, dans un journal argentin intitulé La Nation. Bon, elle publiait beaucoup d'articles en français. Et il semblerait qu'elle ait eu du mal à se décider pour une langue au profit de l'autre. Et pour une question de style, elle aurait fini par adopter la langue espagnole. Bon, il est dit que ses œuvres seraient davantage d'inspiration autobiographique. Elle n'a pas laissé une grande production. L'un de ses ouvrages intitulé « Le rameau de Salzbourg » qui traite de passion amoureuse serait plus ou moins autobiographique. Bon, je remarque aussi que dans ses publications seront souvent proposées des correspondances. Bon, il est vrai que ces rencontres seront souvent riches, hein, on peut dire fructueuses, diversifiées, avec des personnalités internationales du monde de la création, de la pensée et de l'écriture. Et elle rencontrera par exemple le philosophe, écrivain, artiste indien Rabindranath Tagore, célèbre pour sa pensée et ses œuvres dans son pays, surtout au Bengale. Et en 1924, elle écrira un article intitulé « La Allegria de lire Rabindranath Tagore », pardon, je m'en mêle, « La joie de lire Tagore ». Et c'est souvent lors de ses voyages qu'elle fait des rencontres, parmi celles-ci, une avec l'écrivain français Pierre Drieu-La Rochelle, avec qui elle tissera des liens privilégiés, mais celui-ci se suicidera en 1945. Et cette relation fera aussi l'objet d'écriture, de correspondances, comme par exemple son ouvrage intitulé « Lettres d'un amour défunt » et un autre intitulé « Drieu ». Alors aux États-Unis, elle rencontrera des personnalités, hein, comme le psychiatre français Jacques Lacan, le cinéaste russe Sergei Eisenstein, le réalisateur-acteur britannique Charlie Chaplin, l'architecte suisse Le Corbusier et d'autres personnalités bien connues maintenant du monde de l'art et de la littérature, comme encore l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, qui participera à l'élaboration de sa revue El Sur, ce qui fait qu'elle rencontrera d'autant plus d'intellectuels artistes. Alors il est vrai qu'en Argentine, elle créera cette revue littéraire et de sciences humaines intitulée Sur, qu'elle dirigera pendant plus de 30 ans, voire une quarantaine d'années, et qui deviendra une maison d'édition. Elle y accueillera évidemment bon nombre d'écrivains, d'intellectuels, avec l'objectif de traiter les problématiques contemporaines liées à la littérature principalement. Sa sœur également, la poète Silvina Ocampo, et le mari de celle-ci, l'écrivain Bioy Casares, participeront à la revue. Et elle se lancera dans la traduction d'œuvres diverses venant de par le monde. Alors je citerai en exemple « La condition humaine » d'André Malraux, « Une chambre à soi » de Virginia Woolf, et d'autres encore comme Albert Camus, Graham Greene, Federico Garcia Lorca, j'en passe. Bon, on peut dire que cette revue et maison d'édition est l'une de ses créations majeures. Enfin, quoi qu'il en soit, à partir de 1958, elle recevra récompense de son travail et de ses implications. Elle sera décorée de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1962 par la France et par le biais du ministère de la Culture. Et elle sera décorée de l'Ordre de l'Empire britannique en 1965 par la reine Élisabeth II d'Angleterre. Deviendra docteur honoris causa de l'université américaine Harvard et pour clore ce chapitre sera la première femme élue à l'Académie argentine des lettres. Et elle terminera sa vie en 1979 à l'âge plus que respectable de 89 ans. Quant à sa sœur, Victoria Ocampo, hein, qui elle est née en 1903, la benjamine de cette fratrie de six sœurs, nommée Silvina Ocampo, elle reçoit la même éducation que les autres, celle qu'il faut pour les filles de famille, mais s'orientera en plus de la poésie vers l'apprentissage de la peinture et du dessin avec le peintre Giorgio Di Chirico, dont elle suivra les cours à Paris. Alors, pendant plus d'une vingtaine d'années, elle publiera aussi ses poèmes, articles, récits pour le magazine Sûr, hein, de sa sœur Victoria, et ainsi se fera connaître. Alors, en 1937, elle publiera son premier livre de récits intitulé « Viaje olvidado », « Voyage oublié ». Elle a 34 ans. Elle publiera 7 recueils de nouvelles en 1937 et 1988 et une anthologie de poésie. Bon, apparemment, c'est une imaginative, elle écrit des contes et donc l'imaginaire, l'imagination et son matériau. Elle est attirée par le fantastique, ce qui n'est pas le cas de sa sœur Victoria, qui, elle, se base sur la réalité vécue pour élaborer, construire son travail littéraire. Alors, il semblerait que Silvina Ocampo ait suivi son chemin avec discrétion, se cachant derrière les personnalités plus extraverties ou voyantes, telles que son mari Adolfo Bioy Casares, Victoria et aussi Borges, qui était un grand ami de tous. Mais petit à petit, bon, je ne dirais pas que l'oiseau fait son nid, mais presque, car elle développera sa propre expression, si bien qu'il semblerait que maintenant elle soit reconnue comme ayant écrit certains des meilleurs récits de la littérature argentine. Et elle recevra, elle aussi, de nombreux prix pour son travail. Alors, voyons quelques titres hein, dont les ouvrages en français sont disponibles en France, comme « La promesse » ou « Les sentinelles de la nuit » édité aux éditions des femmes, « Faits divers de la terre et du ciel » préfacé par Borges, ou « La tour sans fin » ou encore « Mémoire secrète d'une poupée » chez Gallimard, et d'autres encore que vous pourrez découvrir si le sujet vous intéresse. Alors, nous allons faire une petite pause musicale. J'ai découvert aussi qu'une petite dizaine de femmes argentines nées au début du XXe siècle composaient. Certaines étaient capables de pratiquer d'autres activités en parallèle de leur création musicale, hein, comme par exemple l'écriture ou l'ethnomusicologie, qui est l'étude des musiques au sein de groupes ethniques différents. Et l'une d'elles, justement, est ethnomusicologue et compositrice de surcroît, et fut également professeure de musique. Et elle se nomme Isabelle Aretz. Elle est née en 1913 en Argentine, mais se fera naturaliser plus tard vénézuélienne. Alors évidemment, elle suivra une formation de musicienne, c'est-à-dire de pianiste et de compositrice au Conservatoire National de Musique de Buenos Aires, remportera dans la foulée un premier prix de composition et obtiendra une bourse pour étudier avec le compositeur brésilien nommé Hector Villa-Lobos. Et auparavant, elle aura suivi des études d'ethnomusicologie avec un ethnomusicologue passionné de folklore, donc de la musique populaire, et celui-ci se nomme Carlos Vega. Alors, elle mettra en pratique son enseignement à partir des années 40. Bon, il faut dire aussi qu'elle épousera un ethnomusicologue vénézuélien nommé Luis Felipe Ramón y Rivera, et qu'à deux, unis en plus par leur science, ils évolueront ensemble pendant quelques années. Alors la bourse Guggenheim de la prestigieuse fondation du même nom, qui récompense une personnalité remarquable du monde de l'art ou de la science, lui permettra de recueillir de nombreuses musiques en sillonnant les pays d'Amérique du Sud, comme la Colombie ou le Mexique. Grâce à son métier, elle recueillera les musiques comme celles des Mapuches au Chili, des Chancas au Pérou et bien d'autres encore. Autant dire un gros travail. Et en 1968, elle obtiendra son doctorat de musicologie et fondera par la suite l'Institut intra-américain d'ethnomusicologie et folklore, l'INIDEF. Et après une vie bien remplie, elle s'éteindra en 2005 à l'âge de 92 ans. Donc elle aura beaucoup écrit sur son sujet de prédilection, l'ethnomusicologie, mais elle laissera aussi des compositions pour piano, pour orchestre et notamment pour chant choral. Mais le mieux, c'est peut-être maintenant de me taire pour vous faire écouter une de ses compositions. Certaines sont certainement inspirées par toutes ces rencontres et donc avec des tonalités insolites. Mais celle que je vous propose est une œuvre de jeunesse intitulée « De mi infancia », une pièce pour piano qu'elle a composée en 1935. Elle avait 22 ans et place donc à Isabelle Aretz. Thank you. nous avons encore un peu de temps pour que je vous présente une autre compositrice argentine. Elle se nomme Pia Sebastiani, elle est née en 1925. C'était également une pianiste classique et une pédagogue. Elle étudiera sous la baguette de nombreux professeurs, dont les musiciens les plus en vue et renommés, et ce sera entre autres au Conservatoire de Paris, avec la pianiste Marguerite Long, les compositeurs Olivier Messiaen ou Darius Milhaud. Bon, apparemment, c'est quelqu'un qui a eu un beau parcours. Je pense qu'elle a été reconnue comme étant une grande pianiste classique. Il faut dire qu'elle s'est produite avec les plus grands orchestres d'Amérique latine, mais aussi d'Europe, et sera également professeure d'université, notamment dans l'Indiana, en Amérique. Et c'est une personne qui décédera en 2015, donc c'est assez récent, à l'âge de 90 ans. Alors apparemment, ses talents de pianiste éclipsent la compositrice. Hein. Je n'ai pas réussi à voir vraiment ce qu'elle composait, mais peut-être que sa production n'est pas très importante. Bon, il me semble qu'elle a composé un concerto pour piano et orchestre en 1943, une suite symphonique en 1945. Par contre, ses prix semblent plutôt conséquents. Alors, ceci dit, j'ai trouvé une musique au piano qui semble être d'elle et intitulée « Prélude pour piano numéro 3 » qu'elle aurait apparemment composée en 1945 et nous allons l'écouter. Eh bien, ce nouveau numéro de La Voix des Arts s'achève sur une note musicale. J'aurai le plaisir de vous retrouver le numéro prochain, sans doute encore en Argentine, en compagnie de ces dames. Je pense que vous ne vous en plaindrez pas. En attendant, merci de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.